La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a 120 ans, jour pour jour, le 10 avril 1899, naissait à Saint-Pétersbourg Vladimir Nabokov, fils d'un légiste éminent qui était le chef de l'opposition au régime du tsar dans le Parlement russe et d'une mère qui lui faisait souvent la lecture en anglais, en plus des différentes nurses anglaises ou suisses francophones qui lui enseignaient chacune leur langue. Après avoir été un jeune homme cosmopolite, il est devenu un adulte exilé suite à la Révolution d'Octobre. Il vivra d'abord en Europe de l'Ouest, puis aux États-Unis à partir de 1940, avant de s'établir en Suisse après notamment le succès de son livre Lolita. Cette vie, nous l'avons racontée lundi dernier, c'était avec Laure Troubetskoy dans une émission à retrouver bien entendu en podcast. Et puis hier, Yannick Chupin nous a proposé une traversée de la littérature de Nabokov en suivant les nombreux personnages d'écrivains qu'il a imaginés. Et demain, nous parlerons du professeur Nabokov et de ses fameux cours de littérature européenne que Cécile Guilbert a présenté dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Elle sera notre invitée. Et aujourd'hui ?
Lolita, Lolita, go home. Lolita.
Aujourd'hui, pour parler du célèbre roman Lolita, nous sommes avec Didier Machu, professeur de littérature américaine à l'université de Pau et des Pays de la Doure, auteur de l'essai Lolita ou le tyran confondu aux presses universitaires de Lyon. Il a également dirigé en 2009 avec Taina Tukunen un ouvrage destiné aux capétiens et aux agrégatifs intitulé Lolita, roman de Vladimir Nabokov 1955 et film de Stanley Kubrick 1962. C'est à retrouver aux éditions Ellipse. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Perdu Dolores, un signalement. Bouche écarlate, cheveux noisette. Âge 5300 jours, bientôt 15 ans. Profession néant ou bien starlette. Où va-t-on te chercher, Dolores? Quel tapis magique? Vers quel astre t'emporte? Quelle marque a-t-elle? Antilope au capi. La voiture qui vibre à ta porte. Qui est ton nouveau dieu, ce chansonnier bâtard, pince-guitare, au bar Rimatane? Ah, les beaux soirs d'antan, quand nous restions si tard, enlacés, près du feu, ma gitane. Ce maudit Wurlitzer, Lolita, me rend fou. Avec qui danses-tu, ma caillette? Toi et lui en blue jean, et maillot plein de trous, et moi, seul dans mon coin qui vous guette. Lolita. Ses yeux gris demeuraient grands ouverts.
Vous avez reconnu évidemment la voix de Serge Gainsbourg, l'auteur par exemple de la chanson Les Sucettes, mais également de Lolita Go Home qu'on entend ici. Gainsbourg qui lisait donc un extrait de ce sulfureux roman de Nabokov. Bonjour Didier Machu.
Bonjour.
Alors Lolita, c'est le livre culte hein, de Nabokov. C'est même par ce livre qu'il a atteint une très grande notoriété et probablement aussi par ce livre qu'on en parle aujourd'hui, ou à cause de ce livre.
Oui, ça a été sa bénédiction et d'une certaine façon, je n'irai pas jusqu'à dire une calamité, mais il est vrai que c'est par ce livre qu'il a été connu, qu'il a commencé à... que son succès littéraire est venu. En même temps, c'est un succès de scandale par lequel ça a commencé. Et bien souvent, un succès de scandale occulte certaines valeurs du livre.
C'est toujours le cas d'ailleurs.
C'est toujours considéré comme un livre scandaleux. Le nom de Lolita, le mot nymphette évoque des personnages très différents du personnage du livre. Une adolescente provocante, mais l'est-elle vraiment, comme Humbert le dit ou le suggère à certains moments, ce n'est pas certain. Peut-être qu'au contraire, on se laisse abuser quand on choisit ce stéréotype. Et par ailleurs, ça empêche très souvent de passer à côté des véritables valeurs qui sont des véritables qualité littéraire du livre, parce que ça forme un écran, et les adaptations précisément à l'écran de ce livre, que ce soit celle de Line ou celle de Kubrick, sont l'une et l'autre très différentes d'ailleurs, mais montrent une certaine perplexité vis-à-vis de ce roman.
Le mot d'ailleurs de nymphette, c'est Nabokov qui l'invente dans ce roman.
Tout à fait, parce qu'elle se trouvait chez Ronsard, chez quelques poètes de la Pléiade, mais en anglais, il n'existait pas.
Alors c'est un roman qui paraît en 1958 en Amérique, il va s'en vendre des millions d'exemplaires, mais il avait d'abord paru en France, chez Olympia Press en 1955. C'est un éditeur qui avait la réputation d'éditer des romans pornographiques, mais là encore, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait chez Olympia Miller. Press, Durrell, Burrow, Beckett, Miller. Donc il y a un vrai travail d'édition qui se fait là et qui passe par Paris, qui passe par la France.
C'est-à-dire qu'il était très... Mais il concevait beaucoup d'appréhension à l'idée de proposer ce manuscrit. Il l'a proposé sous le sceau du secret à plusieurs éditeurs qui lui ont répondu en un mot comme un son, si je publie ce livre, je peux fermer boutique. Quand on lui a parlé, quand son agent lui a parlé de Olympia Press qu'il ne connaissait pas, il s'est dit ah, pourquoi pas. Et il s'est aperçu de son erreur un peu trop tard. Hein, il y a eu un procès, etc. D'ailleurs, maintenant, les exemplaires de l'Empire Press valent cher parce qu'ils sont devenus très rares. Et quand on en voit, on s'aperçoit que le texte est très mal reproduit. Il y a quantité de coquilles, etc.
Donc, il est évidemment publié en anglais. Il se dirige subrepticement les exemplaires vers l'Angleterre.
Oui, c'est d'ailleurs Olympia Press adressé aux anglophones qui étaient en France ou qui passaient par la France. C'était une adresse connue et on rapportait ces livres-là dissimulés dans les vêtements.
Et là, le gouvernement de Sa Majesté demande au gouvernement français d'interdire aussi en France ce roman trop subversif.
Voilà, il y a eu tout un échange entre Paris et Londres, au terme duquel le roman est finalement paru, et ça a contribué à ce scandale, et ça a certainement contribué aussi à la curiosité du public.
Est-ce que vous avez l'impression, Didier Machu, qu'on pourrait publier aujourd'hui Lolita ?
C'est une question qu'on doit poser, qui est souvent posée. On dit effectivement qu'aujourd'hui, ce serait peut-être plus difficile, mais pour des raisons différentes. Maintenant, si un romancier ayant la réputation de Nabokov le proposait, on serait curieux de savoir ce qui se cache derrière l'apparente provocation du sujet. Mais là, beaucoup de gens ont porté un avis négatif sans clairement avoir lu le livre et leur avis a fait autorité.
Alors c'est un roman qui se présente sous la forme d'une plaidoirie menée par un homme dont l'attirance envers les très jeunes filles le pousse à commettre des actes diaboliques. C'est dans un style imagé qu'il faut en parler parce que au tout début de Lolita, Humbert Humbert, le narrateur, utilise cette expression de style imagé pour dire qu'un style imagé c'est la marque d'un bon assassin. Alors là on est directement dans quoi ? Dans l'humour noir ? Est-ce qu'on est dans l'humour de Humbert Humbert ou est-ce qu'on est dans l'humour de Nabokov selon vous, Didier Machu ?
Nabokov a plusieurs fois dit qu'il ne pensait pas en mots mais en images. Évidemment, ces images ne peuvent se communiquer que par les mots. Il a d'ailleurs pensé, envisagé d'être peintre à l'époque où, de toute manière, il n'avait pas à se soucier de gagner sa vie. Donc, c'était une pensée fugitive,
donc,
mais il aurait très bien pu.
Avant la Révolution.
Il est très intéressé par la peinture et pas seulement par l'écriture, par l'entomologie, par les échecs et diverses autres choses. Je crois qu'en effet, l'image est très présente dans sa forme d'écriture. Il faut beaucoup se méfier. On a dit que c'est un roman, je crois que vous l'avez dit, c'est un roman autobiographique écrit par le principal personnage. On peut juger que c'est lui le personnage principal.
Voilà, même le personnage raconte son autobiographie.
Il raconte son autobiographie. Le titre est Lolita. Ça ne veut pas dire que Lolita est le personnage principal. Le personnage principal, semble-t-il, c'est plutôt Humbert. Et Lolita n'est peut-être pas vraiment un personnage, c'est plutôt une création. Le personnage à partir duquel il y a eu cette création, c'est Dorley Hayes. D'ailleurs, beaucoup de critiques ont tant de difficultés à voir ce livre comme une œuvre littéraire et non pas une étude de cas social qu'ils disent. Je veux rendre son identité à cette jeune fille qui a été la victime et je l'appellerai dans mon étude, je l'appellerai Dorley ou je l'appellerai Dolores, je ne l'appellerai pas Lolita puisque c'est le nom qui lui est donné par celui qui l'a ainsi assujetti. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement la création qu'il y en a et donc... il faut distinguer selon les cas, si on avait Lolita ou Dorley.
D'ailleurs, on se demande parfois, pardonnez-moi, si ce qui intéresse Humbert, c'est vraiment Lolita, parce qu'il ne cherche pas tellement à sonder son âme, à sonder son esprit. Il s'intéresse surtout, Humbert à lui-même, c'est-à-dire à l'effet que cette nymphette produit sur lui, en fait.
Oui, l'intériorité, dans tous les sens du terme, et évidemment, on fait un lien entre le psychologique et le physiologique. L'intériorité mentale de cet enfant lui demeure inaccessible.
Il ne s'interroge pas, mais il ne la comprend pas non plus.
Quand il l'entend pleurer dans la chambre voisine, il dit... c'est une question d'hygiène mentale pour lui que d'ignorer tout à fait cela et de s'en tenir à distance.
On va écouter un premier extrait de Lolita, lu ici par Guillaume Gallienne.
Un jour, une petite beauté parfaite, vêtue d'une robe en tartan, posa avec fracas sur le banc à côté de moi ses minces bras nus et resserra la courroie de son patin à roulettes. Et je fondis sous le soleil, avec mon seul livre pour feuille de vigne, tandis que ses bouclettes châtain retombaient partout sur son genou écorché, et l'ombre des feuilles que je partageais avec elle palpitait et se dissolvait sur son membre radieux tout près de ma joue caméléonique. Un autre jour, une écolière aux cheveux roux demeura suspendue au-dessus de moi dans le métro, et la révélation d'une rousseur axillaire demeura dans mes veines pendant des semaines. Je pourrais dresser la liste d'une multitude de ces menus idylles à sens unique. Certaines d'entre elles se terminèrent en un puissant fumet d'enfer. Il m'arrivait par exemple de remarquer de mon balcon une fenêtre allumée de l'autre côté de la rue et d'y voir ce qui semblait être une nymphette en train de se déshabiller devant un miroir complice. Découpée et isolée de la sorte, cette vision irradiait un charme dont l'acuité me précipitait vers mon extase solitaire. Mais brusquement, traîtreusement, la tendre esquisse de nudité que j'avais adorée se révélait être le bras nu dégoûtant, éclairé par une lampe, d'un homme en sous-vêtements en train de lire son journal près de la fenêtre ouverte, dans la chaleur, la moiteur, le désespoir d'une nuit d'été.
En moi, je m'appelle Lolita, en l'eau ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita, et quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne.
Surgit Julien Doré. Que vous inspire l'écoute de cet extrait, Didier Machu?
Alors, lui se présente comme une sorte de Silène, de dieu Silène, comme on en trouvait dans les jardins. Et la manière dont il décrit ses joues caméléoniques, évidemment, c'est les émotions qui s'y succèdent, mais en même temps, c'est les couleurs violentes, vives, dont on peignait ces simulacres divins en bois plantés dans les jardins. Donc, il y a ces références à l'antique chez lui, il y a d'autres éléments qui signifient qu'il est en Europe. Par exemple, les patins à roulettes, il dit que, Nabokov dit que quand il est passé de la Russie à l'Europe, à la France en l'occurrence, et là, cette évocation, c'est à Paris, eh bien, il est passé aussi simplement que quand il a échangé les lames de ses patins à glace contre les roulettes des patins. Donc, ça signifie quelque chose pour lui ou pour un lecteur de Nabokov. Et il y a d'autres éléments qui vont se retrouver ensuite dans le livre, parce que cette vignette de l'enfant qui le hante pendant des jours, elle est prémonitoire, puisque c'est déjà une figure de Dolores Hayes, de celle qui deviendra Lolita. Mais en même temps, il y a un modèle culturel qui est déjà présent à Paris et qui anticipe sur l'Amérique, c'est Shirley Temple, qui dans un de ses films joue une petite dans un régiment écossais, est une sorte de mascotte du régiment. Et évidemment, Shirley Temple, c'est à la fois l'exemple et le contre-exemple. Puis la première épouse de Humbert, Valeria, essaie d'être une sorte d'analogue de Shirley Temple.
Vous êtes en train de nous dire, Didier Machu, que dans un simple extrait de Lolita, on peut déplier un peu dans tous les sens, jusqu'à l'Antiquité et aussi jusqu'au cinéma qui est contemporain de l'écriture ou de la narration qui est ici racontée. Enfin, c'est un peu vertigineux.
C'est quelquefois vertigineux quand on investigue. Effectivement, investiguer, c'est bien ça, effectivement. C'est-à-dire, on fouille et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est apparemment anodin et chargé de sens. Je pourrais prendre un autre exemple. Il parle de la manière dont Lolita, d'ailleurs, c'est quelque chose que le film de Line met en scène, dont dans le film de Line, on voit clairement Lolita à sa première apparition, qui est baignée par l'eau du tuyau d'arrosage, qui est en même temps une référence proustienne qu'on retrouve chez Nabokov. De sorte que il y a une évocation du vêtement adhérent à la peau tel que la statuaire grecque le faisait. On retrouve ça au passage chez Joyce. La même scène où l'on voit Lolita descendre de la voiture et détacher la robe qui est collée entre ses fesses, on la retrouve dans Ulysse. Mais à la fin du livre, enfin vers la fin du livre, quand le personnage est à New York, il dit que depuis ses fenêtres, il voit des enfants qui jouent dans l'eau. Ça paraît innocent. En fait, ces enfants qui jouent dans l'eau, vu la situation de sa chambre d'hôtel, c'est du bronze, c'est une fontaine de bronze. Donc ça veut dire que maintenant, Lolita, qu'il avait animée à partir de la statuaire, eh bien elle est désanimée, elle redevient statue.
Alors, on voit bien
des choses de ce genre qui sont passionnantes
pour moi. Toute la profondeur de l'analyse qu'on peut faire de ce texte-là. Pour reprendre un petit peu la naissance de Lolita, il faut expliquer que avant ce livre, il y en a eu un autre précurseur qui s'appelle L'Enchanteur. C'était plutôt une nouvelle qui se passe là pour le coup complètement en France.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire en quoi c'est un premier pas vers Lolita?
C'est une nouvelle qu'il croyait perdue. Et là, je pense que ce n'était pas un jeu de sa part, une coquetterie de sa part. Dans les tribulations de ses déménagements, il pensait que cette nouvelle avait effectivement été perdue. Elle a été retrouvée, elle a été publiée, elle a été traduite. Elle est extrêmement... quantité de détails sont déjà en germe qui vont se retrouver dans Lolita. Lolita a été écrite avant que Nabokov ait pu retourner à ce premier état, en somme, du sujet. Mais l'enfant dont il s'agit est atone. Elle est sans particularité, elle est sans caractère. C'est-à-dire qu'elle n'a rien de la petite fille effrontée que Nabokov montre aux États-Unis.
Il y a aussi l'idée qui a été racontée par Nabokov que c'est à Paris qu'il aurait eu la première fois l'idée de Lolita. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est dans la préface, dans la postface, pardon, qu'il donne à Lolita. En lisant le journal, un article sur un singe du Jardin des Plantes à qui on aurait donné un dessin à faire et puis il aurait dessiné ses barreaux. Et alors ça lui aurait donné l'idée de Lolita. C'est pas très simple de comprendre pourquoi, Didier Machu.
Oui, effectivement. Et dans la mesure où ce singe est supposé avoir peint pas autre chose que les barreaux de sa cage.
C'est ça.
L'enfant, Lolita, ici, ne peint rien. Tout ce à quoi on peut le rattacher, c'est un journal allemand dans lequel un journaliste, un photographe alors peu connu, mais qui allait le devenir, hein, Hilmar Pabel, avait donné des contributions. Il avait donné à un chimpanzé un appareil photo et celui-ci l'a déclenché. Bon, on peut imaginer qu'il le fait au hasard et que Pabel ensuite a choisi. Et tout ce qu'il peut photographier, c'est les visages hilares du public derrière les barreaux.
Mais quel rapport avec Lolita? Pourquoi est-ce que ça donne l'idée à Nabokov d'écrire un roman pareil?
Lolita est plusieurs fois appelée Little Monkey, petit singe, dans le livre. Et effectivement, il y a un caractère animal à Lolita, de même que sa mère est appelée une vache.
Ça veut dire quoi, ça, pour vous, ce rapport à l'animalité?
Ben, je pense qu'effectivement, la relation qu'il entretient avec cet enfant est une relation animale.
Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de ta langue, Lolita. Le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper à trois contre les dents. Lolita. Le matin, elle était l'eau, simplement, avec son 1m46 et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur les pointillés. Mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Une autre l'avait-elle précédée? Oui, en fait, oui. En vérité, il n'y aurait peut-être jamais eu de Lolita si un été je n'avais pas aimé au préalable une certaine enfant. Dans une principauté au bord de la mer. Quand était-ce? Environ autant d'années avant la naissance de Lolita que j'en comptais cette année-là. Vous pouvez faire confiance à un meurtrier pour avoir une prose alambiquée. Mesdames et messieurs les jurés, la pièce à conviction numéro 1 est celle-là même que convoitaient les séraphins, ces êtres candides, simples, aux ailes altières. Voyez cet entrelac d'épines.
La compagnie des auteurs sur France Culture, c'est un livre qui commence presque comme une chanson, Didier Machu. Je ne sais pas si vous trouvez la traduction française à la hauteur du texte anglais, mais il y a quelque chose, en effet, de très poétique.
Oui, c'est un exorde poétique, en effet. C'est un exorde lyrique. C'est un roman circulaire, comme on l'a dit à propos d'autres romans récemment. Il commence par le nom de Lolita, qui est déjà sur la couverture, et il se termine par ce nom. Il y a eu d'autres livres qui
ont... Pour inciter à ce qu'on reprenne le livre au début.
Peut-être, oui, peut-être que c'est cette idée d'infinité, d'éternel recommencement. Proust commence la recherche en mentionnant par une réflexion sur le temps, et il la clôt par une réflexion sur le temps, et on pourrait dire qu'il se met un peu dans ses pas. Il se met très souvent, effectivement, dans les pas de Proust, mais toujours avec une distance. Par exemple, quand il s'agit de l'entrelac d'épines, plusieurs critiques américains ont pensé qu'il s'agissait de la couronne d'épines. Et pour moi, il n'en est rien. Il s'agit de l'entrelac des épines, des épiniers de Tansonville dans dans Proust, derrière laquelle il voit l'enfant.
Plus prosaïquement, les épines qui sont celles qui constituent la vie de Humbert Humbert.
Ah oui, ça, bien sûr. Mais de toute manière, chez Nabokov, une hypothèse n'est pas exclusive des autres. Et très souvent, bon, il y a ce qui vient immédiatement. Généralement, ce qui vient immédiatement à l'esprit doit être pris avec précaution, parce que c'est ce que l'auteur s'attend à ce que on pense, et il faut penser un peu à côté. Il cherche, il joue un certain jeu avec son lecteur.
S'arrêter à la première interprétation possible ?
Si, mais toujours avec une réserve, avec une petite nuance. Et il nous dit souvent dans ses textes comment il se représente son public. Et par exemple, dans un de ses textes, il dit « Je me représente mon public comme une foule de petits Nabokov ». Donc il attend une sorte de compétition avec son lecteur.
Alors, on a entendu aussi prononcer dans cet extrait le nom de Annabel Lee, donc cette petite fille dont le narrateur Humbert Humbert a été amoureux en France dans une principauté près de la mer, et qui a donc constitué finalement l'espèce de scène originelle qui du coup lui fait inventer Lolita, puisque il est amoureux de cette petite fille, ils peuvent à peine s'embrasser et elle va mourir. En quoi c'est intéressant de placer finalement tout le roman sous l'égide de cette scène primitive, selon vous, Didier Machu?
C'est une différence fondamentale avec l'Enchanteur. Dans l'Enchanteur, il n'y a pas du tout de prélude, il n'y a pas du tout de premier acte, comme on en voit ici. Tandis que, évidemment, ça se conçoit, puisqu'il a écrit cela en étant encore en Europe, quand il franchit l'Atlantique, et bien évidemment, il met en scène, par un ver interposé et avec évidemment une distance, se transfère vers une autre culture.
Oui, parce qu'il faut dire que Humbert Humbert est européen, alors peut-être suisse, on ne sait pas très bien.
Et avec un peu de Danube dans les veines.
Avec un peu de Danube dans les veines. Et pour vous, c'est une des interprétations majeures, pour vous et pas seulement, hein, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à partager cette analyse, qui consiste à dire, voilà, Lolita, c'est un roman aussi sur la confrontation entre l'Europe et les États-Unis, parce que Humbert Humbert représente l'Europe, alors que Lolita et sa mère, évidemment, sont une incarnation des États-Unis. Je schématise beaucoup, mais vous allez pouvoir nous dire les choses
mais
de manière plus
précise. C'est vrai, mais il faut se souvenir aussi du moment où il a écrit cela. Il venait de quitter l'Europe, l'Europe venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des romans qui ont été écrits sur cela ne peut pas se passer ici, sur une prise du pouvoir aux États-Unis par une extrême droite qui ouvrirait les bras à l'Allemagne. Il y a eu des scénarii qui envisagent cette entrée de l'Allemagne aux États-Unis, et puis bien sûr il y a eu l'entrée en guerre des États-Unis, qui a été d'ailleurs servie par une bonne partie de la, on appellerait ça de la sous-littérature que lit Lolita, c'est-à-dire tous les comics avec les super-héros qu'elle lit, presque tous se sont engagés dans la guerre avant même que les États-Unis s'y engagent. Et donc, d'une certaine façon, ces héros, pour elle, repoussent l'envahisseur. Or, Humbert est cet envahisseur. Quand il paraît.
C'est pour ça qu'il est un tyran. Je rappelle le titre de votre essai, c'est oui. Lolita ou le tyran confondu. Et le tyran, c'est Humbert Humbert, c'est
oui.
ça et c'est elle... une figure d'Hitler, par exemple.
Enfin, tout à fait. Elle l'appelle Double Dealer. Double croix mot à mot. Or, la double croix était l'équivalent de la swastika dans le film de Chaplin, Le Dictateur. Cette ressemblance entre Chaplin et Hitler, c'est quelque chose que on retrouve ici, c'est-à-dire que Humbert, tel qu'on se le figure, c'est un bel âtre, un bel homme, etc. Mais il envisage de se laisser pousser une moustache quand il confronte Quilty. Quilty a un visage rond, tandis que lui a un visage carré.
Et puis surtout, c'est un violeur et un meurtrier quand même.
Oui, mais je veux dire que violeur et meurtrier, il y en a toutes sortes, mais quand on met beaucoup d'éléments tels que la swastika, les quantités d'autres éléments qui font référence à l'Allemagne, et à l'Allemagne hitlérienne, et à Hitler en particulier, le doute n'est plus permis.
D'ailleurs, à ce sujet, il faut peut-être rappeler l'anecdote que raconte Hannah Arendt dans son livre sur Eichmann. C'est une anecdote assez étrange. Elle explique, peut-être voulez-vous le raconter, elle explique à Jérusalem, le jeune policier qui était responsable du bien-être moral et psychologique d'Eichmann lui avait donné à lire Lolita pour qu'il puisse finalement passer le temps. Et deux jours plus tard, Eichmann, très indigné, lui avait rendu choqué en lui disant « Mais ce livre est un livre absolument malsain. »
Malsain, oui, c'est ça. Cela tenait sans doute à ce que Eichmann aussi jugeait qu'il était un homme d'ordre qui exécutait les ordres venus d'en haut avec la plus grande rigueur.
Oui, mais Humbert c'est un homme d'ordre aussi.
C'est un homme d'ordre, exactement. Mais quand Quilty lui présente en miroir ce qu'il est véritablement, il ne peut pas nier, et surtout le lecteur se rend compte que cette méticulosité qui est la sienne cache un jeu extrêmement pervers.
Donc c'est la méticulosité du dictateur qui petit à petit avance ses pions et qui avance masqué puisqu'il se présente comme étant le gendre idéal.
Il se présente comme le gendre parfait, il épouse Charlotte pour être au plus près de sa fille. Et c'est un ogre, en fait. D'ailleurs, la métaphore, quand je dis c'est un ogre, la métaphore gustative est présente partout. Charlotte, c'est un nom de
gâteau.
De gâteau. En quantité d'occasions, l'appétit charnel de Humbert, est rapporté en termes de gourmandise, même si ça serait plutôt de goinfrerie, quelquefois. Et pour satisfaire cet appétit-là, il doit satisfaire l'appétit de Lolita, qui est très porté sur tout ce qui est très sucré, et que Humbert donc pense mettre à son usage pour conquérir Lolita, et finalement ça joue contre lui.
Donc cette question de l'ordre et du désordre, c'est un thème un peu récurrent quand même dans Lolita. Vous-même, vous transposez ça à l'opposition Apollon-Dionysos et à l'opposition Humbert et Quilty. Parce que Quilty, alors il est dans le monde du spectacle, il est aussi le représentant de l'Amérique vraisemblablement par rapport à Humbert, ce que vous y disiez tout à l'heure. Et donc ces deux personnages finalement sont là pour se mettre en valeur l'un l'autre, se confronter l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça peut signifier?
Je pense que Quilty lui montre par sa présence ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire il met devant Humbert une image véritable. J'ai dit Apollon Dionysos, effectivement, il y a bien des raisons de le dire, mais on pourrait dire aussi le clown blanc et l'Auguste. Le clown blanc prétentieux et l'Auguste qui le ridiculise et qui lui montre que sa prétention est sans fondement. On pourrait dire aussi, et c'est l'origine du mot clown, c'est-à-dire le funambule parfait que croit être Humbert, son numéro d'équilibre, et puis Quilty qui fait rire en feignant la maladresse.
Et d'ailleurs, Lolita est réellement plus amoureuse de Quilty, puisqu'elle va partir avec lui à un moment du livre, mais c'est également un prédateur, Quilty.
Oh oui, tout à fait. Mais c'est un prédateur sans complexe, c'est un prédateur sans faux-semblant. Il s'avoue tel qu'il est. Et effectivement, elle va partir avec lui, elle va même dire que c'était un génie.
Jusqu'à la fin, elle garde cette idée.
Elle
finalement.
Garde cette idée. Humbert ne reconnaîtra jamais cette qualité de génie à qui que ce soit, et certainement pas à Quilty. Il dit tout au plus que son esprit a été un peu conforme au sien, que ça lui offrait un défi.
Didier Machu, on va continuer à parler avec vous de Lolita et à analyser cette œuvre, peut-être davantage en seconde partie à partir de l'adaptation qu'en a fait Stanley Kubrick. Mais avant, je vous propose de retrouver Michel Crépu.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel.
Bonjour.
Un mot peut-être sur ce qui a été dit en première partie ou sur Nabokov en général pour commencer ?
Oui, moi je dois dire, terriblement partisan du premier degré avec Lolita. C'est l'histoire d'un type qui ne pense qu'à ça. Le désir rend fou, sauf à lui donner une forme, et la littérature peut s'en mêler, et ça donne un livre comme Lolita. Mais j'aime bien que... Je n'ai pas envie tout de suite d'aller chercher des hypothèses tordues. Je trouve que la censure américaine a très bien senti les choses et elle a mis le doigt tout de suite sur le fond du problème. Donc,
précisément différents étages qui peuvent se lire en parallèle.
Bien sûr, bien sûr. Mais j'aime beaucoup qu'un écrivain, puisque finalement assez rare, se donne la peine de nous raconter comment ça se passe, comment le désir fonctionne, comment le désir devient le grand élément, le grand contributeur à la création généralisée. Et bien sûr, la littérature est là pour donner une forme là où il ne peut pas y avoir de forme, parce que le désir ignore ça. On est effectivement dans une espèce d'apollonisme débridé, enfin, et qui résiste à tout cadre. Mais ce que Nabokov raconte, c'est très simplement, c'est d'abord ça. Enfin, je vois cette fille et je ne pense qu'à ça. Et voilà.
Un mot pour répondre à Didier Machu.
Oui, il voit cette fille. Il a cherché ce qu'il a figuré comme la nymphette en vain. Il s'est plus ou moins fourvoyé, etc. Il a rencontré cette jeune fille aux alentours de la Madeleine, encore un nom de gâteau d'ailleurs, et évidemment là où il pouvait trouver des prostituées. Et il s'est mis à distance rapidement, il s'est aperçu que ça n'allait pas être ça. Donc quand il voit cet enfant, il a l'impression que voilà, je l'ai retrouvé.
Ce qui me fait penser toujours aussi à l'épisode d'Ulysse dans Joyce, de la scène à la plage où Monsieur Bloom regarde et dévore des yeux cette jeune fille, cette nymphette. Qui se déshabille ou se rhabille, je ne sais plus, enfin, peu importe.
Ah, mais il y a de l'intertextualité chez Nabokov, hein, si on a le temps, on en dira un mot en seconde partie. Qu'est-ce qu'on trouve, Michel Crépu, dans la nouvelle livraison de la NRF ?
J'attire votre attention, cher Mathieu, sur les notes de lecture, parce que c'est toujours important dans une revue, on commence toujours par là, et c'est très souvent le moment d'allumage dans la lecture. Et là, parmi les notes de ce numéro, par Bertrand Lacarelle, il y a un compte-rendu des lettres de guerre de Jacques Vacher, qui est un personnage emblématique de l'aventure surréaliste.
C'est la Première Guerre mondiale. Hein.
C'est la Première Guerre mondiale, 14-18. Et on a là un volume qui rassemble, je crois vraiment au maximum, les écrits, les textes, les lettres de Jacques Vacher. Je pense que c'est quelque chose qui a tout à fait sa place dans l'ensemble des réflexions et des choses sur la guerre de 14 qu'on a en ce moment.
Et puis Mona Ozouf sur George Eliot, je crois.
Et sur George Eliot, Mona Ozouf, qui est toujours avec sa dextérité subtile, habituelle, nous introduit à l'intérieur du monde si complexe et si paradoxal de George Eliot, où tout a l'air conforme et tout dans les cadres et qui est complètement détourné de part et d'autre. C'est très très étonnant et Mona Ozouf a le talent pour démêler ça.
Voilà, on peut découvrir tout ça dans la NRF en l'achetant, mais on peut aussi aller sur le site lanrf.fr pour lire votre blog, Michel Crépu. Merci beaucoup et à très très bientôt.
Merci.
Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs et vous êtes sur France Culture. Notre sujet du jour, c'est Lolita. Non seulement l'original, le livre de Nabokov, mais également son adaptation par Stanley Kubrick dans un film dont voici tout de suite un extrait.
What drives me insane is the twofold nature of this nymphet, of every nymphet perhaps. This mixture in my Lolita of tender, dreamy childishness and a kind of
eerie vulgarity. I know it is madness to keep this journal, but it gives me a strange thrill to do so. And only a loving wife could decipher my microscopic script.
You have a very long face today.
Oh, yeah? Huh? What were you writing?
I was writing a poem.
Mm-hmm. And what's it about?
It's about people.
It's a novel subject. You know, it's funny, it sort of looked like a diary when I came in.
But I always write my poems in a diary. It's one of my little idiosyncrasies.
Afraid somebody's gonna steal your ideas and...
Alors ça, c'est la scène durant laquelle Humbert écrit dans son journal, puis cache ce journal quand Lolita arrive, avant de lui lire un poème d'Edgar Poe. On va parler du film, mais puisqu'on revient sur Edgar Poe, un mot quand même sur l'intertextualité. Pourquoi finalement faire appel tout d'un coup à Edgar Poe, le faire arriver comme ça dans le roman, selon vous, Didier Machu?
Edgar Poe, c'est un auteur que Nabokov appréciait, et ils ne sont pas légion. Dans sa vie, dans son autobiographie, il avait pratiqué aussi l'amour des très jeunes filles.
Il y a d'ailleurs un poème qui est cité quasiment. Peut-être pas une extenso d'ailleurs, mais d'Edgar Poe dans Nabokov Lolita, dans Lolita de Nabokov, qui raconte ça, hein, c'est ça Didier Machu?
C'est ça, oui. Et quand il, dans l'extrait qui a été lu tout à l'heure, qui est la première page du livre, il parle de dans un royaume au bord de la mer. Ce royaume au bord de la mer peut très bien être Monaco, peut très bien être tout à fait proche de chez nous. À ce propos, je voudrais dire que là, il s'agit du journal de Humbert. Quand on a dit que Nabokov se préparait à brûler les premières pages, ce qu'il avait commencé à écrire de Lolita, c'était le journal de Humbert, puisque dans la Genèse, il a commencé par écrire cela comme un journal. Après, il a complètement changé d'optique.
Mais il a peut-être récupéré des passages, puisque il y a des morceaux du journal quand même dans le livre.
Mais en fait, il se préparait, si on le croit, à brûler le journal de Humbert. Or, Humbert brûle son journal. Donc, il est toujours très difficile de savoir, quand il dit avoir fait une chose, si il cherche à marcher sur les pas de son lecteur pour créer une confusion de plus ou une comparaison de plus, ou bien si ça s'est vraiment passé, si sa femme s'est interposée, ce qui dans le cas de Humbert évidemment risquait de guère d'arriver.
Toujours difficile de savoir où on se situe avec Nabokov. Alors faisons donc un petit détour par le film de Kubrick. On peut d'abord dire que dans votre essai vous faites un rapprochement entre Lolita et Mort à Venise, donc deux adaptations, deux jeunes gens, un jeune garçon dans Mort à Venise, une petite fille dans Lolita. Quel autre rapprochement on peut faire?
Thomas Mann n'était pas du tout un auteur prisé par Nabokov. Mais ça ne fait rien et ça ne l'empêche pas de faire des allusions en dépit de ça, peut-être même à cause de ça. Il est certain que la notion de maladie est très présente dans le livre Lolita, c'est-à-dire le préfacier.
La maladie de Humbert, une sorte de...
Le préfacier dit qu'il s'agit, il parle de moral leper, un lépreux en matière de moralité. Pour ma part, je rapprocherais ça de la peste brune, c'est-à-dire d'une autre forme de maladie qui a pris l'Allemagne. Mais dans Mort à Venise, c'est le choléra qui petit à petit vient grignoter, s'approcher de la ville. Et donc cette idée de maladie est présente. Et puis, je pense... Je pense aussi que cette nouvelle, cette fiction de Thomas Mann a intéressé beaucoup Nabokov parce que il y a la Venise vue par Proust, qui, et pour lui, c'est toujours un passage obligé.
Alors, qu'est-ce qui a poussé, selon vous, Kubrick à adapter ce roman de Nabokov? Parce que, et on le comprend très bien en vous entendant, c'est un roman quasiment inadaptable, si on veut être fidèle à l'esprit nabokovien, c'est-à-dire avec ses multiples étages de compréhension possible et de sens divers et variés. Pourquoi, selon vous, Kubrick se lance-t-il dans cette affaire?
C'était un défi pour cette complexité, mais c'était aussi un défi à cause des règles qui prévalaient à Hollywood à ce moment-là.
Donc la censure.
Et la censure. Donc, quand il a demandé un scénario à Nabokov, Nabokov a été très séduit par l'idée, et il lui a donné un scénario qui aurait demandé un film de 3 heures, simplement. Dont il a, donc Kubrick a finalement très peu tenu compte, au point même de ne pas l'inviter à la première du film.
Ce scénario, on peut le lire quelque part? Vous y avez eu accès?
Ou le scénario de Nabokov a été publié, ouais. Tout à fait, oui.
Donc, ce livre est tout de même fait. On peut considérer que c'est du coup simplement le film de Kubrick, ou est-ce qu'il reste quelque chose du scénario Nabokov?
Il est intéressant pour la comparaison. C'est, pour moi, c'est une œuvre de Kubrick. Mais l'étincelle, tout de même, est venue de Nabokov. Et il a beau l'avoir tourné au Royaume-Uni et non pas aux États-Unis, on retrouve l'esprit du livre dans beaucoup de pages.
Et en même temps, il n'était pas très content de son film, Kubrick.
Non.
Il l'avait dit en 87 au Spiegel, si Lolita avait été écrit par un auteur moindre, il aurait pu être un meilleur film.
Si Lolita avait été écrit par un auteur moindre, c'est-à-dire que...
Que Nabokov.
Oui. Est-ce que ça veut dire que... est-ce qu'il fait référence au scénario de Nabokov? Ou bien est-ce qu'il veut dire que la complexité dont vous parliez...
J'imaginais que c'était ça, mais je me disais que peut-être vous aviez votre propre interprétation. Mais de manière générale...
Il est certain que Humbert n'est pas du tout dans le film le Humbert qu'on connaît dans le livre. Hmm. Il est désemparé dans la plus grande partie du film. Au lieu d'être celui qui manœuvre les autres, qui manie les autres.
Il ne peut pas être un tyran.
On peut difficilement le voir comme un tyran dans le film de Kubrick, même si l'enfant dit Heil Hitler à un certain moment, référence évidemment très claire.
I didn't come here to play guessing games. Tell me who it was.
Well, give me a chance to explain.
All right.
Do you remember that car that used to follow us around?
I'm not likely to forget that in a hurry.
Remember Mother's old flame at the school dance? No, you probably don't remember. Do you remember the guy that you talked to at that hotel on the way back from camp? He pretended he was part of that police convention that was there.
Vaguely, yes.
And do you remember that guy who called you at the motel?
The night you disappeared. Yes, I remember him very well.
And yet you still haven't guessed.
I told you that I'm not playing games with you. Tell me who it was.
It was Claire Quilty.
Who was Claire Quilty?
All of them, of course.
You mean Dr. Zempf? He was Claire Quilty.
Well, congratulations. I don't suppose it ever occurred to you that when you moved into our house, my whole world didn't revolve around you.
Alors ça, c'est la scène finale de Lolita, telle que Kubrick l'a filmée. C'est le moment où Lolita avoue à Humbert son passé avec Claire Quilty. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette scène, cette image?
Eh bien, cette scène-là, l'équivalent dans le livre, évidemment, le nom de Quilty est prononcé par Lolita pour la première fois, mais il est prononcé dans un murmure. Il est prononcé Quilty. Comme cela, et le ce faisant, elle forme sa bouche en bouton de rose, comme on dit, jusque-là, ce bouton de rose, c'est une métaphore qui a été utilisée pour désigner la façon dont parlait l'entremetteuse quand elle allait proposer une pseudo-nymphette à Humbert, etc. Donc, elle en parle sur le ton de l'amour, c'est la même forme que prend la bouche de Charlotte quand elle dit « what proof ?» à propos de cette
montre. Elle en parle donc, sur le ton de l'amour, malgré ce que lui a fait Claire Quilty, parce que
absolument,
il l'a emmené dans des dans un château où finalement il l'a livré quasiment en pâture à ses amis au cours d'orgies.
D'orgies, tout à fait, oui. Mais elle fait la nuance ensuite à la fin du livre en disant que ce qu'a fait Humbert est incomparablement pire que ce que lui a fait Quilty.
Donc on a dit que c'était quand même compliqué pour Kubrick d'adapter Nabokov, et pourtant il y a des affinités quand même entre les deux, ne serait-ce que l'ironie quand même très puissante de l'un et de l'autre. Plus anecdotiquement, le goût pour les échecs. On sait que Nabokov a joué aux échecs à Berlin pour gagner sa vie durant la Première Guerre, plutôt dans l'après-guerre, l'après-Première Guerre, et puis Kubrick aussi à Washington, mais alors plutôt après la Seconde Guerre mondiale cette fois. Est-ce que quand même ce ne sont pas des univers un peu compatibles ?
Oui, je pense qu'il y avait une affinité d'esprit entre les deux. La passion pour les problèmes d'échecs était celle de Nabokov. D'ailleurs, il présente l'écriture comme quelque chose d'analogue au problème d'échecs, c'est-à-dire je me donne des éléments et quelle est la façon la plus élégante d'arriver à une solution. Donc, une écriture de nouvelles, de poèmes, de romans, c'est un problème analogue à un problème d'échec. Il y a certainement de cela aussi chez Kubrick.
Si on compare des univers avec d'autres, il vient tout de suite à l'idée que l'univers de Humbert est similaire à l'univers de Lewis Carroll, qui prenait, comme on le sait, des photographies de petites filles. Est-ce que ça vous semble juste ? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire là-dessus, Didier Machu ?
Parce qu'il est question d'une petite fille dans les récits de Lewis Carroll.
Nabokov, je crois, a voulu traduire Alice au Pays des Merveilles.
Oui, 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 il l'a traduite
en russe.
Comme on peut s'y attendre de sa part, ce n'était pas une traduction, c'était une adaptation. C'est-à-dire qu'il a cherché ce qui pouvait correspondre dans la société où il évoluait à ce que Lewis Carroll avait en tête quand il s'adressait à l'enfant et quand il la mettait en scène dans son récit. Il y a aussi cette déraison, ces folies, les cartes qui s'animent, couper-lui la tête, etc. Tous ces aspects-là qui sont justement ce côté désordonné.
C'est ça, c'est le désordre et en même temps l'ordre que représente vraiment Humbert, qui est un personnage quand même très rigide,
oui.
Mais aussi désordonné d'une certaine façon.
Oui, oui. Il donne une impression d'ordre quand il rend visite à sa future logeuse, et c'est certain qu'il cherche à donner cet aspect, et il est parfaitement maîtrisé, mais son désordre est tout intérieur, évidemment.
Alors,
une autre forme de désordre, c'est celui de la terre américaine des premiers temps, avant que cette terre ne soit coupée par des barbelés. Et il y a quelque chose d'analogue dans la façon dont il espère profiter de cette terre ouverte, comme il profite de l'enfant qui est terre ouverte pour lui.
C'est
un conquérant, et petit à petit, évidemment, on le met sous lisière, on l'enferme, et soit dit en passant, il ne faut pas perdre de vue que quand il est appréhendé par la police et se livre à la justice, c'est pour un excès de vitesse. Puis on découvre le meurtre de Quilty. Et ce n'est que quand il fait ce que l'avocat lui a dit de faire, c'est-à-dire mettre par écrit tout cela, qu'on apprend qu'il est aussi le violeur.
Et en quoi c'est important, ça ? Ça veut dire que c'est une vraie confession, qu'il se livre lui-même ?
Il aurait pu ne pas faire cette confession, de sorte qu'il prend occasion de cette confession pour arriver à cette immortalité partagée avec Lolita en 42 jours d'écriture, paraît-il.
Philippe Solers disait que Lolita était un chef-d'œuvre encore loin d'être mis à sa place. Est-ce que c'était également votre avis, en quelques mots, Didier Machu ?
Je pense effectivement que c'est un livre je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un chef-d'œuvre, mais c'est un livre étonnant, un livre provoquant, un livre à découvrir et à redécouvrir parce que jusqu'ici, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons qu'il est lu.
Merci Didier Machu. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature américaine à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, auteur notamment de Lolita ou Le Tyran confondu, publié aux presses universitaires de Lyon en 2010. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean-Guilain Meige. Notre série, elle se poursuit demain par un dernier épisode consacré cette fois à Nabokov professeur. Ce sera avec Cécile Gilbert, mais tout de suite un peu de poésie choisie et interprétée par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Tempus fugit, tempus surgit. Ça veut dire quoi? Allez, on y va, s'entraîner, on expliquera plus tard, en cours. S'il faut que l'esprit se dérange absolument pour nous mettre en communication avec un autre monde, il est clair que jamais les fous ne pourront prouver aux sages qu'ils sont au moins des aveugles. Mon cher Gérard, je peux vous appeler Gérard? Vous lisez trop, vous écrivez trop, vous voyagez mal, vous nourrissez votre esprit de vieilles chansons et de croyances bizarres. Et Nerval, hein, car c'était lui, de répondre « Il y avait là de quoi faire un poète, et je ne suis qu'un rêveur de prose. Ténébreux, inconsolé, fou peut-être, à la recherche de l'étoile morte, le poète n'a cessé de voyager dans les nuits constellées, blanches et noires, pour vérifier ses rêves. Peut-être que, tout comme nous, vous vouez une véritable passion à Gérard de Nerval. Nous sommes avec Éric Poindron dans « Comme un bal de fantôme ». Savez-vous que, dans la nuit du 1er octobre 1838, alors qu'il revenait d'un voyage en Allemagne avec Alexandre Dumas et son Ida Ferrier, le poète s'arrête à Troyes, quittant la voiture sans la moindre explication. Nerval s'enfonce dans la nuit profonde, comme il l'a écrit dans les nuits d'octobre, justement. Des corridors sans fin, des escaliers où l'on monte, où l'on descend, où l'on remonte et dont le bas trempe toujours dans une eau noire agitée par des roues sous d'immenses arches de pont. Nerval ne donnera jamais la moindre explication. Les biographes font le dos rond. Que cherche-t-il à Troyes, terre de Templiers? Est-il sur les traces de Rachi, le talmudiste médiéval? A-t-il un rendez-vous secret dans la ruelle aux chats? Nous connaissons la fascination de Nerval pour les sciences secrètes et occultes. Pourtant, aucun biographe officiel n'a mentionné cette disparition. Durant plusieurs jours, Nerval n'existe plus. Alors voilà pourquoi nous existons, dit Éric Poindron, qui anime un cabinet de curiosité en ligne, Curiosa, etc. Le chercheur est un homme de raison, le poète est un homme de terrain et d'intuition, et peut-être doué d'une incurable imagination. Il ne fouille pas dans les archives, certes, il est là pour rétablir l'imagination, pour enchanter aussi. Appelons cela les coulisses du possible. On tourne les pages, on batifole, on papillonne, et on arrache au chapitre apprentissage « Entendre les enfants ». Songez encore qu'il existe des rues pavées et discrètes, des Noëls et des horizons. S'envoler, oui, c'est ça, s'envoler. Fondre devant les blés coupés, frissonner et se réchauffer, faire silence et sourire au matin. Croire à toutes les Vosges, n'être jamais dupe des poètes, ne pas croire aux mots de Nerval, masser les pieds que l'on croit précieux, entendre les désarrois d'un visage, apprendre à se taire, rire encore. Apprendre à se taire encore.
Jacques Bonafé, merci. Vous continuez de nous lire des textes d'Éric Poindron.